mère, etc. Et j'avalais tout. Rolando Cubelas, je ne l'ai jamais vu. Même chose pour le commandant Matos, Hubert Matos, que j'ai toujours considéré comme une ordure, simplement sur la foi de... Je rencontre des gens qui le connaissent très bien, et qui disent, c'est un type tout à fait remarquable, qui a de ses limites politiques, idéologiques, mais honnêteté, courage, intégrité... Et là, le procès Otra 89, pour la première fois, je dis, merde, c'est pas possible, tu vois, je veux dire,
mais est-ce que là, l'histoire n'a pas pu enseigner, justement, à regarder les autres procès aussi,
oui,
avec un peu ces yeux-là?
Mon ami Daniel Ben Saïd parle au début de la discordance des temps. Il y eut sans doute dans l'initial enthousiasme de cette aventure beaucoup de crédulité. Mais en amour comme en politique, la crédulité des premiers instants n'a rien de ridicule. La crédulité de l'incroyant est un joyeux pari sur l'improbable. Oui, alors, la crédulité du croyant est pire. Et j'avais celle-là, à ce moment-là. D'ailleurs, ce n'est pas à dire que... la Révolution cubaine n'a pas eu raison d'être répressive et militarisée, c'était épouvantable, c'était vraiment un contre 100, le rapport de force était tel qu'il fallait se blinder, et qu'il fallait sans doute un peu de terreur révolutionnaire, mais sans doute, si j'avais vu de près beaucoup de choses dans le détail, j'aurais été, disons, plus prudent, mais...
Là-dessus, on n'est pas sur la... Bon, nous, ça a été un problème toujours pour nous, et entre nous, hein, l'histoire de la Révolution cubaine. Alors, quand tu as Jeannette, qu'il faut extraire les critiques prudentes et mesurées...
Jeannette, elle est acquise viscéralement. Elle est...
Oui, mais par exemple, bon, sur le procès Ochoa, sur la signification du procès, il n'y a eu aucune hésitation. Après... Elle était réticente à l'exprimer de manière un peu bruyante, en disant qu'on sait qu'il est porteur, etc.
C'est un vieux classique. C'est un vieux débat.
Oui.
C'est un vieux débat, à mon sens, qu'il faut trancher, quoi. Je veux dire, sinon, tu répètes.
Mais moi, je crois qu'on peut, enfin, on peut ici, je ne dis pas qu'à Cuba, ça soit commode, mais ici, je ne vois pas ce qui empêche d'être à la fois.
De condamner le blocus.
Un point sur le blocus, contre le blocus, etc. Et puis dire non, ça, ça ne va pas. Absolument. Moi, j'ai lu les actes du procès publiés par les Cubains eux-mêmes, du procès Ochoa.
C'est
hallucinant.
C'est insoutenable.
Ça, oui, c'est un truc.
Insoutenable.
Ce qui est curieux, c'est que pour moi, personnellement, c'est aussi une inflexion. Je ne dis pas qu'avant, on était à critique, d'un coup, on découvre. Parce que, bon, l'expérience, enfin, dont tu parles, dont Benigno parle dans son bouquin, etc. Via les copains argentins ou boliviens, les histoires de rétention, de pression, de chantage, bon, ils existaient déjà au début des années 70, ou peut-être avant, mais on y a été confrontés quand même, on ne peut pas dire... Et là, il y a quelque chose de pourri, là, ça va au-delà, parce que la nécessité d'une certaine terreur révolutionnaire avec ses... Bon, il y a toujours pas mal de déchets là-dedans, sans aucun cynisme, mais... ça n'implique pas mécaniquement ça. Bon, je le crois aussi.
Et ça d'ailleurs, ça n'implique pas mécaniquement ça tant qu'il y a appui populaire, ferveur et mobilisation. Vrai. Ce qui était le cas dans les années 60. Ce sera difficile, quand on fera l'histoire de la Révolution, de marquer repérer le point d'inflexion.
Et ça, oui.
Mais tu sais, c'est vrai, c'est une question compliquée. Pour moi, effectivement, c'est donc venu très tard, 89, mais le point historique objectif remonte évidemment à plus tôt. Moi, je crois que c'est autour de 68 que ça se passe, de l'échec de la Zafra.
Oui, tu le suggères,
d'ailleurs. C'est autour de 68 que ça se passe.
La Zafra, la Tchéco...
Avec l'institutionnalisation, ce qu'ils appellent le projet d'institution, qui était en fait la sanitisation du régime, déjà pour compenser son passage à la défensive, quoi. Mais comme cette soviétisation laissait les fidélistes, disons, laissait une marge de manœuvre pour les fidélistes vis-à-vis de l'Amérique latine, que moi c'était le groupe auquel j'appartenais, je pensais que cette soviétisation, ça concernait l'État, les formes extérieures de la bureaucratie, bon, je trouvais ça un peu plus ridicule, bête, mais on pouvait encore. encore faire semblant de ne pas le voir, ou en tout cas s'en moquer gentiment. Parce que, disons, la branche latino-américaine gardait sa liberté de manœuvre. D'après Benigno, elle l'a perdu à ce moment. Je me souviendrai d'ailleurs, il faudrait que je retrouve le moment exact, là ce serait quelque chose de beaucoup plus fin, le moment exact où Carlos Rafael, qui n'était pas le pire, en passant à Paris.
C'est pas un con, hein.
Non, c'était sans doute d'ailleurs l'un des moins staliniens des dirigeants, parce qu'il avait été quelques mois avant, comme tout. Il m'a dit tout de même en passant par Paris, je crois, en 76 ou 77, il m'a dit, dorénavant Régis, je ne communique plus directement avec Pinheiro, passe par moi. Ça veut dire que le parti reprenait le contrôle. Mmh. Et on peut dire en conscience que l'union, ça veut dire quand vous reprenez le contrôle des activités subversives, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus déjà d'autonomie de manœuvre pour le petit groupe de fidélistes conspiratifs avec les frères de la Guardia, Ochoa, voilà, tout ça. C'est sans, enfin, ça se passe, moi, je trouve, je dirais que c'est sans doute entre, je dirais, entre 73 et 80 que le point d'inflexion serait à trouver. Honnêtement, je ne l'ai pas bien vu. Rétrospectivement, en ayant étudié les phénomènes de pouvoir, ça veut dire toujours des phénomènes de communication, de voies de communication, de branchement, de débranchement, etc. Par où passe la lettre, par où, qui reçoit le...
On n'a pas parlé, mais
qui
c'est quand même drôle.
Soit le télégramme qui déchiffre, qui a le droit de le lire, qui est compartimenté, qui ne l'est pas. Bon, c'est vraiment c'est le problème le central le téléphonique. Mais là, il y a eu une dérivation, sans doute, qui est symptomatique de quelque chose, c'est que, en gros, ça voulait dire, allez, on est copains, mais vous avez assez joué dans votre coin, maintenant, on s'entraîne. Ça. Plus de...
De toute façon, c'est... Dire,
plus de contact avec des groupes pas contrôlés, etc.
Enfin, c'est très dur de périodiser.
Bon, ouais.
Ils ont eu le problème sur la révolution russe, dans les oppositions.
Ouais.
Alors, c'est ceux qui disaient, bon, dès 23, c'était foutu, la mort de Lénine, etc. Tu ne trouves pas de critères. D'ailleurs, moi, je crois que c'était...
En URSS, moi, je dis 28.
Oui,
comme
mais,
ça.
Mais
comme ça.
Je crois que l'erreur qu'on a fait, nous, c'est de ne pas arriver à penser bien le processus bureaucratique, contre le terme de rien, peu importe, mais comme un processus, réellement. C'est-à-dire, on a cherché à l'imaginer comme l'inverse de la révolution, une contre-révolution aussi identifiable.
Et là, c'est plus compliqué.
Et là, c'est plus compliqué, ça prend des formes beaucoup plus paliers, diffuses.
Puis bon, c'est pour sauver les acquis de la révolution qu'il faut faire la contre-révolution. Enfin, tout ça,
23-24, c'est une inflexion. 28, ça met une. Et après, bon. Après la preuve, elle vient toujours après coup. Ce qui est pour Trotsky le critère, 33, la victoire du nazisme, et puis après les procès. Enfin, c'est l'aboutissement d'un processus qui est déjà largement consommé. Alors, tu peux dire à Cuba, il doit avoir des paliers aussi. Les années 70, autant que je me souvienne. Enfin, il y a des années vraiment difficiles.
Oui.
Nous, on a espéré qu'avec le Nicaragua, ça allait rebondir.
Effectivement.
C'était pas complètement cuit.
Absolument. Non, c'était pas encore complètement cuit. Pour moi, on pouvait encore jouer à l'époque, enfin, c'est comme ça que je le vivais, le dédoublement entre les formes extérieures, le parti, le comité central, les congrès, le mouvement de la paix, toute cette liturgie soviétique d'un côté, et puis de l'autre, un noyau révolutionnaire qui... attendait son heure et qui ferait sauter la gangue bureaucratique quand le rapport de force le permettrait. C'était en tout cas mon petit raisonnement. C'était plus tenable, sans doute à la fin des années 70. Mais en réfléchissant à ça, je me dis au fond, règle de trois, j'aurais pu adhérer au procès de Moscou si j'avais eu le malheur de ne pas connaître personnellement, de n'être pas un peu impliqué personnellement, de ne pas connaître petit prof marxisant français avec 40 ans de plus, j'aurais pu acheter le discours de Mathiez d'ailleurs.
Mmh. Oui, merci.
Ça va pas, oui, dans la révolution, c'est comme ça. Il y a des factions, et puis il faut sauver la patrie.
En tout cas, c'est...
Bah, peut-être que je me calomnie, hein. C'est le plaisir
non,
de,
mais
de se calomnier, mais parce que j'ai dû voir des trucs comme ça à Cuba qui m'ont passé sous les yeux, où je n'ai rien vu, si tu veux.
Écoute, c'est d'autant plus envisageable que ça a été quand même l'aveuglement le mieux partagé à gauche,
ouais.
Hein, sur les procès de Moscou. Oui. Le seul truc qu'on puisse dire, c'est que un autre regard était possible. Bon, puisque moi, il n'y a rien qui m'irrite autant que les révélations à partir de faisceaux de Génitsine.
Je
trouvais une fois dans un débat polémique avec le roi Ladurie, bon, une éminence historienne. La découverte finalement le monde sur les médecines, il ne faut pas déconner. Bon, maintenant que l'aveuglement est très largement barré, il y a eu toutes les raisons pour ce que tu dis dans la figure de. Bon, moi, tu sais, j'ai vécu mal, alors qu'il n'y avait plus d'enjeux héroïques dans les années 60, mais l'exclusion du PC, je l'ai vécu, enfin, l'exclusion, on avait envie de partir, mais je l'ai quand même vécu mal. C'était. Là, la dimension affective, émotionnelle, alors aujourd'hui, finalement, ça les fait marrer, mais c'est un truc d'appartenance.
Ah oui, ça existe encore ?
Oui.
C'était un truc d'appartenance à une histoire, plus qu'à une direction. C'était le partage d'une histoire.
C'était être chassé de la famille,
oui.
Par le père. Quoi.
Puis finalement,
à la rue, comme un petit salaud.
On y a survécu, pas confortablement, mais enfin, on y a politiquement survécu. Mais à l'époque, le discours, parce que moi je voyais bien, bon, dans mon entourage, qui étaient des promos, des résistants et tout, et bon, alors, le fils machin, il fait des études, et puis voilà, c'est déjà la trahison de classe qui commence. Hein, tous ceux qui ont rompu les deux partis, regardez comment ils ont fini, le clair, machin, etc. À l'époque, le discours hors du parti. Pas de salut, pas grande chance. Bon, il était assez crédible finalement. Assez crédible.
Qu'est-ce qu'on fait
Oui, non, on arrête là.
Non, là ça marche. Non, stop, 2 minutes. Juste pour conclure, si cette. Vous avez dit au début que ce bouquin fermait une période de connaissance de choses. Si c'est une espèce d'adieu à l'engagement politique. Vous avez pu le faire avant, vous en êtes où aujourd'hui? Et puis, pourquoi vous avez été au Chiapas? Qu'est-ce qui vous a attiré?
Oui, non, d'abord, ce n'est pas un adieu à l'engagement politique, c'est un adieu à la vision politique du monde, je dirais. Bah, c'est drôle, parce que d'un côté, je reste un citoyen de la politique. Même en tant que philosophe, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement du collectif. Ça veut dire le religieux, le politique, ce n'est pas tellement le fonctionnement du cognitif. Je trouve que la chimie, ça m'embête un peu.
T'as pourtant travaillé sur la thermodynamique.
Oui, mais bon, c'est pas mon domaine d'élection, c'est pas ma patrie, quoi. Je suis donc un fils du politique et je le resterai. Maintenant, je n'ai plus une vision politique de l'existence dans sa globalité. Et c'est pas du tout la fin de l'engagement, parce que mes convictions, disons, morales restent ce qu'elles sont, et ça, je pense que ça changera plus. Je me définirais comme un républicain socialisant, républicain de gauche ou d'extrême gauche, voilà. C'est comme ça, c'est peut-être une vision très bornée, très archaïque, voilà, je sens que je m'arrête là. Bon. Et donc je suis capable de m'engager pour des choses ponctuelles, oui, en cas de. Quand il y a le feu à la maison, et puis quand il y a. Ou alors quand il y a des causes comme celle du Chiapas qui me semblent novatrices. J'ai l'impression que il y a de l'histoire qui avance, quoi. Voilà. On n'est pas dans la morne répétition. En l'occurrence, du guévarisme, du fauquisme, de l'avant-gardisme, mais on est des gens qui cherchent et qui, en cherchant, expriment quelque chose d'un peu universel. Il y a un zeitgeist, quoi, qui passe par là. Donc, moi, c'est tout naturellement que je vais là-bas, avec aussi un devoir de mémoire aussi. Là, on reprend le début de notre conversation, c'est que c'est un Aufheben, il dépasse en conservant. Il reste, disons pour Marcos en tout cas, et même pour ceux qui l'entourent, la figure du Tché, la figure de référence. souffrance permanente, il s'inscrit dans ce courant-là, disons du mouvement guérillero né dans les années 60, mais avec un tout autre esprit, avec beaucoup plus de modestie, de distance à soi-même, enfin, bon, donc, devoir de mémoire, de fidélité. Voilà, comme disait l'autre, le goût de l'action plus la fidélité, ça empêche de devenir fasciste. Voilà. Oui, ça empêche de devenir fasciste quand on croit à la nation, quand on aime.
Et les réflexions, bon, je veux bien croire qu'il y a un peu de poudre aux yeux dans tout ça, mais tant à vouloir dire, bien, il faut qu'on fasse une pause et qu'on regarde un peu derrière nous par rapport aux accords que nous avons passés jusqu'à maintenant. Bon, ça, c'est le discours qui se véhicule à l'intérieur de l'organisation. Bon, même s'il est en partie faux, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de me raconter des histoires, je pense quand même qu'il est aussi en partie vrai. Quoi. C'est-à-dire que quelque part, il y a nécessité de faire un retour en arrière. Quoi.
Ok. Ben, c'est intéressant tout ça. Alors, donc tu es, je te présente comme Michel Vanhove, V-A-N-O-V-E.
Non, V-A-N-H-O-V-E.
Ah, H.
H-O-V-E.
D'accord. Et tu es secrétaire de...
Secrétaire régional de la
des l'UPR, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Ok.
Bon, si t'en veux un peu plus, tu peux, parce que c'est pas très politique ce que je t'ai raconté.
Si, c'est intéressant. Ouais. Genre,
t'as de quoi faire.
T'as de quoi faire. Si tu veux, tu seras peut-être pas là, mais je peux t'envoyer le rouge de la semaine prochaine, ça va sortir.
Oh, ben non, t'en fais pas, je l'achèterai.
Tu l'auras.
Ouais.
Donc, tu auras un article fait par Frédéric Borras,
oui,
tu connais peut-être.
Oui, hein. On se connaît tous, que tu veux.
Oui, je sais. Ouais. Et donc, tu auras ton interview.
D'accord.
Voilà.
Allez.
Merci beaucoup.
Salut.
Au revoir.
Il y a une situation d'urgence qui conduit le gouvernement à dire on ne peut pas laisser une entreprise en deux ans dépenser ses capitaux propres ou le pognon qu'elle a mis de côté, donc il faut fusionner.
Ah oui. Ok. Il parle de navette là, c'est quoi ce truc-là?
Alors, les navettes, nous on pense que c'est un projet, si elles voient le jour, elles ne verront pas le jour cet hiver, parce que...
C'est quoi la différence? Les
navettes, c'est de mettre des avions de moindre capacité, de petite capacité, et de faire une desserte cadencée d'une ville à l'autre, donc de Paris vers Nice, de Paris vers Marseille et de Paris vers Toulouse, avec un produit ultra simplifié, sans réservation, c'est-à-dire que les gens savent qu'il y a un avion qui part toutes les demi-heures, et puis ils embarquent, comme ça, ils embarquent.
Ouais.
Alors bon... Faut savoir.
Ça n'existe pas pour l'instant.
Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Europe. Il y a une tentative là en ce moment en Espagne qui est peu probante. C'est un produit américain, les navettes. Hein.
Mm-hmm.
Bon, le produit des navettes aux États-Unis, manifestement, il marche parce que ça remettre à la dimension du pays. Mais chez nous, compte tenu de l'encombrement du ciel européen et du ciel français, il est c'est pas possible d'organiser un système de navettes tout en sachant que Orly est frappé d'une interdiction d'augmentation de vol, puisqu'on est limité à 250 000 créneaux l'an, et que si on devait développer une navette toutes les demi-heures, on flotterait ce truc. Et puis bon, une navette, il faut pas que l'avion reste par terre, quoi. Si j'ose dire, il faudrait prendre un avion qui atterrirait jamais. Parce qu'un avion qui se pose à Orly, il faut qu'elle fasse un demi-tour, donc qu'elle soit prête à repartir 20 minutes après. Imaginez, en 20 minutes, il faut débarquer sans passager d'un avion avec ses valises. Je rentre dans le détail, mais c'est important peut-être pour vous. Et puis, il faut réembarquer sans passager avec tout leur bagage.
Donc ça pose des problèmes de sécurité quand
ça pose des problèmes de sécurité, de fiabilité.
Mmh.
Et puis, bon, le grand problème que se pose pour les élus du comité d'entreprise, c'est que il faut nous démontrer qu'économiquement... c'est possible, et c'est rentable, parce que faire des navettes pour faire des navettes, si c'est pour encore perdre plus de fric que sur un raisonnable. Et puis la première des choses que l'on constate, c'est que déjà eux ne seront pas en mesure de l'organiser comme ils le souhaiteront, parce qu'ils ont quasiment annoncé que sur Nice, il y aurait une navette toutes les heures, alors qu'aujourd'hui déjà on fait un vol toutes les heures. Et puis bon, il y a des données incontournables, c'est qu'on sait bien que sur notre réseau, au départ de Nice, de Marseille et de Toulouse, les hommes d'affaires, ils veulent tous prendre l'avion en même temps le matin. Les premiers vols sur ces dessertes-là, le matin, on a un A330 qui embarque 450 passagers.
Mm-hmm.
Quand il va falloir les coller, les 450 dans un avion de 100 places, on va avoir un peu de mal.
Parce qu'une navette, c'est forcément le même avion, le même type d'avion.
Ah oui, ce sera le même type d'avion. Des avions de moins de 100 places, ils prévoient.
Parce qu'ils disent qu'il est, justement, ils tirent l'argument de la fermeture des lignes pour dire qu'il y aura des créneaux.
Et ben, c'est pour
les navettes.
Ben, pour faire les navettes, il en faut des créneaux. Donc les créneaux, on peut pas les, on ne peut que taper dans notre potentiel de créneaux. Donc ben, ces créneaux-là, il faut fermer les lignes, il faut fermer Perpignan, il faut fermer Toulon, il faut fermer la descente de Orly-Nantes. On récupère comme ça 23 créneaux au départ, 23 créneaux à l'arrivée. Et avec ces 23 créneaux qui nous appartiennent en propre, on peut utiliser ces navettes. Hein. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans la philosophie c'est ça. C'est pour ça qu'en ce moment il y a une grosse montée en puissance des élus régionaux là, du Var, qui consiste à dire les créneaux ne doivent pas être affectés aux compagnies européennes et aux régions. Je crois que c'est un projet qu'en tant que syndicaliste on ne peut qu'y adhérer. Imaginons que demain on décide de faire plus que du Paris-Marseille, et qu'il n'y ait plus qu'une desserte aérienne en France, le Paris-Marseille. Parce qu'on met tous nos créneaux là-dessus. Et il y a plein de régions françaises qui auraient des aéroports qui sont en pleine mutation actuellement et qui ne verraient plus un seul avion de compagnie arriver. Alors il faut savoir en plus que la concurrence, elle laisse entendre qu'elle va utiliser ses créneaux. Elle ne peut pas. Il va falloir qu'elle tape elle-même dans ses propres créneaux pour pouvoir desservir du Toulon, du Perpignan ou du Nantes. Donc c'est particulièrement compliqué. C'est vrai que le transport aérien même est particulièrement compliqué. Et dans la mesure où il se déréglemente, derrière le mot déréglementation, il n'y a pas forcément le mot facilité. Hein. La déréglementation, ça impose aussi aux compagnies de faire des choses un peu plus compliquées que de façon très traditionnelle.
Ok, alors maintenant les perspectives de mobilisation du personnel dans les jours qui viennent. Ouais. Enfin, déjà la grève de vendredi.
Elle était particulièrement bien suivie.
Oui, alors, apparemment, on a l'impression qu'elle a été décidée très très rapidement.
Oui, bah, nous c'est notre cheval de bataille depuis des années. Depuis des années, on tente de convaincre les syndicats que, comme dans d'autres entreprises, on peut mobiliser les salariés en un jour ou en deux jours. Donc on y a réussi ce coup-ci avec une demi-journée, mais c'est vrai que bon, c'est particulièrement difficile en une demi-journée de mobiliser les gens.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme taux de grévistes ?
On l'a pas le taux.
Comment on peut décrire la grève ?
C'est compliqué parce que comme en même temps il y avait le lock-out là, lancé par la direction du groupe, on peut difficilement se compter parce qu'il y a des gens qui, même s'ils adhéraient au principe de la grève, comme il n'y avait rien à foutre dans leur service, ils ont fait le choix. Ou ils sont restés chez eux, ou ils ont été au boulot, et comme ils bossaient pas, ils se sont dit c'est emmerdant de perdre du fric alors qu'il n'y a rien à foutre. Quoi. Donc le taux de grévistes est difficilement appréciable. Mais c'était un taux quand même, une mobilisation importante. Quoi. Devant le siège social des Rennes, il y avait de l'ordre de 1500 personnes qui se sont rassemblées. On a rarement vu 1500 personnes comme ça rassemblées en moins de 4 heures. Donc il y a une spontanéité au mécontentement. Ouais. Et puis bon, il y a des signes qui ne trompent pas dans ce genre de rassemblement. Prendre un exemple, la CGT se sont fait huer à un moment donné. À 15 heures, ils voulaient libérer le directeur général. Les gens, ils ont dit à la CGT, non, on est venu ici, là, on le garde et on ne partira pas ici avant d'avoir une réunion programmée avec Blanc. Donc la réunion.
Et vous avez retenu le directeur, là, oui.
Oui, donc la réunion avec Blanc, c'est jeudi. Donc jeudi, les gens vont venir. Et si Blanc n'est pas là, ça va renforcer ce mécontentement. Je sais pas si je...
Donc vous avez retenu le directeur. Vous avez occupé les pistes aussi, c'est ça?
Non, on n'a pas occupé les pistes. Enfin, on a occupé les pistes à Nantes. Il y avait des occupations de pistes à Toulon. L'escale de Perpignan a été totalement fermée parce qu'il y a les gens de la chambre de commerce là, de Perpignan et les gens de la tour de contrôle qui sont entrés dans la mobilisation par rapport à l'abandon de la ligne. Quoi. Mais à Orly, non, il n'y a pas eu d'occupation de piste. Hein.
D'accord.
Bah, de toute façon, à quoi servait d'occuper les pistes s'il n'y avait pas d'avion qui partait, à part les avions des autres compagnies.
Il y a quand même, on a un peu l'impression que c'est très compliqué, hein, le personnel... Les compagnies aériennes, c'est-à-dire les différences de statut, les différences de...
Ouais, ça c'est né, c'est...
Le nombre de syndicats, etc.
Déjà, il y a 4 syndicats. Donc...
Alors, comment vous analysez-vous au CNPIT les problèmes d'unification du personnel? Comment vous voyez ça?
Parce qu'il y a un projet collectif qui est défendu par les salariés de l'entreprise, c'est la défense de leur entreprise. Et de tout temps, chez nous dans l'entreprise, enfin le SNPIT s'est employé depuis avant 90, de faire en sorte qu'il y ait des relations qui s'établissent entre les relations de navigants, entre les syndicats de navigants et les syndicats du sol. Alors ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui c'est un fait acquis, il y a eu une solidarité, on arrive à mettre de côté nos antagonismes de militants entre nous, on arrive à mettre de côté un peu notre vision catégorielle de la situation, parce que les personnels ils ont besoin d'entendre ce message unanime et ils ont besoin que les organisations syndicales reprennent à leur compte leur projet de voir que l'entreprise va se développer.
Ouais.
Donc et puis
tout le personnel. Il
n'y
a pas de logique quand on parle souvent de logique catégorielle,
non.
De logique, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Non, il n'y a pas de logique.
Il y a
une logique naturelle, catégorielle, dans la mesure où il y a beaucoup de syndicats catégoriels. Mais au moment où on est devant les pieds du mur et qu'il nous faut réagir, il y a cette logique unanime. Je vais prendre un exemple. En 90, on a développé de gros conflits sur les salaires dans l'entreprise. Ça s'est traduit par des augmentations de salaire pour le personnel au sol, et ça s'est traduit par quasiment aucune augmentation pour le personnel navigant technique, et ils étaient dans la grève avec nous. Ils ont été jusqu'au bout, même s'ils n'en ont pas récupéré les fruits. Donc ces logiques-là, elles sont peut-être pas compréhensibles pour les usagers ou pour le commun des mortels, mais il y a une longue habitude de travail en intersyndical. Il y a une longue habitude de travail en intersyndical. On respecte le point de vue de tous les syndicats en intersyndical, et on essaye de trouver un dénominateur commun. Aujourd'hui, le dénominateur commun, c'est le sauvetage de l'entreprise, c'est le sauvetage des emplois. D'ailleurs, vous avez vu, pendant ce conflit-là, personne n'a fait de référence aux augmentations de salaire, personne n'a fait de référence à des acquis fondamentaux à protéger. Le maître mot, aujourd'hui, c'est l'entreprise et les emplois. C'est ça, le thème du conflit.
Et pour jeudi, donc, il y aura une initiative commune, enfin, je veux dire, il y aura une mobilisation des syndicats ensemble, un point de vue commun défendu, etc.
C'était ce qui se disait hier soir à la sortie de chez le ministre, mais on a une intersyndicale à 14
ans. Oui, à midi, là, oui. Ah, oui.
Alors j'espère qu'on va conserver cette unité, cette cohésion.
Vous envisagez une manifestation, enfin, je ne sais pas,
Nous, on appelle à la grève 24 heures, SNP.
Ah, d'accord.
Les autres syndicats, là, on le saura cet après-midi, hein, mais je pense qu'après ce qu'a dit Ponce, je vois aucune raison pour que les autres syndicats n'appellent pas à la grève. Hein.
Tous,
oui.
Parce que vendredi, c'était uniquement vous et la CGT, non?
Nous et la CGT, oui.
Et là c'est possible que ce soit tout le monde?
Là, c'est possible que ce soit tout le monde. Hein.
D'accord. Personnel navigant commercial, là aussi.
Personnel navigant commercial, c'est moins évident. Parce qu'ils ont sorti un communiqué de presse le 30,
ouais,
qui dit en substance qu'ils privilégient la nouvelle compagnie européenne, mais que, bon, dans le pire des cas, ils accepteraient la fusion.
Oui, j'ai vu ça aussi.
Donc, s'ils acceptent la fusion, s'ils disent par avance qu'ils acceptent la fusion, on peut légitimement douter de leur velléité à se bagarrer.
Mm.
Parce que le mouvement de jeudi, c'est contre la fusion. Hein.
Oui,
contre la fusion.
Ok.
Voilà.
Alors attends, le nom.
Patrick Chaillou, CHAI2LOU.
CHAI2LOU. Patrick. Donc secrétaire.
Du SNPIT.
Ok.
Et puis bon, si tu as besoin d'autres informations, hein, je vois qu'il y a mon camarade Léon, là, il n'y a pas de problème, hein, on est en phase. Hein, il n'y a pas de nécessité absolue de passer absolument par moi. Léon a la confiance du syndicat.
Oui, mais enfin, pour interviewer le syndicat, autant passer par le secrétaire général.
D'accord, comme tu veux, comme vous voulez. Mais quand Léon...
Ça n'empêche pas Léon de faire des articles.
Oui, mais si Léon parle, il peut parler en mon nom. Hein, tu sais, on est resté être un syndicalisme relativement simple. Hein, on essaie d'adapter des méthodes de fonctionnement les plus simples possibles. Même s'il y en a qui nous astreignent à revenir... ils ont besoin d'un chef au syndicat, qu'est-ce que tu veux que je te dise,
hein? Ah, c'est comme ça. Hein.
Oui. Bon.
Ok, merci. Hein. Au revoir.